Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En cette époque où nous rêvons de grands larges, de mer, de ciel bleu et d'aventures, pour sortir de ce confinement, quoi de mieux qu'un roman, un polar même, qui se déroule sur l'une des plus belles îles au monde, la Corse. Paradis sur terre, vu de l'extérieur, ce département français au cœur de la Méditerranée est aussi par endroits un enfer, irrigué par une noirceur, voire une violence ancestrale. Et qui mieux qu'un Corse lui-même peut montrer les deux facettes de son pays natal ? Notre invité aujourd'hui, le journaliste et écrivain Antoine Albertini, qui après Mala morte, publie un nouveau roman tout aussi sombre que le précédent, paru sous le titre Banditi aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Antoine Albertini.
Bonjour.
Vous êtes donc à Bastia, où vous vous êtes isolé ces deux derniers mois. Comment ça se passe quand en plus on est sur une île qui par principe est déjà isolée ?
Pour moi, ça n'a pas changé fondamentalement ma vie, puisque je vis chez moi et souvent enfermé depuis un an et demi, parce qu'il faut que je me consacre à l'écriture, donc ça nécessite une discipline qui va de pair avec l'enfermement. Mais j'ai surtout été assez étonné de la docilité bienveillante et de l'obéissance de mes compatriotes, évidemment, dont j'aurais jamais pu imaginer qu'ils suivent aussi rigoureusement les consignes de confinement. Donc ça a été une période, comme tout le monde, je crois, un peu particulière. Et effectivement, quand on est dans une île, avec désormais pratiquement plus de liaison aérienne pendant 2 mois et non plus que de liaison maritime, ça a été quand même un moment un peu hors du temps et presque tiré d'un roman de science-fiction. Donc effectivement, quand on vit sur une île et qu'on sait qu'on ne peut plus en sortir et qu'on ne peut pratiquement plus y entrer, ça se rappelle à notre bon souvenir, c'est-à-dire qu'on a les avantages et les inconvénients afférents à ce type de situation. C'est très particulier, c'est aussi paradoxal.
Et est-ce que la Corse a été beaucoup touchée par la pandémie ?
Alors en proportion, oui, puisqu'on compte plus de 70 morts pour une population de 320 000 habitants, je vous laisse faire le ratio, je ne suis pas excellent en maths, mais c'est considérable, mais beaucoup moins qu'on ne l'avait estimé au départ, en particulier avec une partie de la population qui est vieillissante. Mais curieusement, ça nous ramène aussi à des réflexes ancestraux, puisque la population âgée est souvent, concentrée dans les villages de l'intérieur qui ont pratiquement pas été touché, pour ainsi dire, pas été touché. Donc ça nous permet aussi de revisiter notre psyché, de revisiter nos habitudes, et de, même si les Corses ont toujours été très proches de leur village d'origine, ils vivent aujourd'hui à plus de 70% sur les côtes, et on s'est rendu compte aussi, parmi toutes les redécouvertes qu'on a fait au cours de cette période, que il y avait quelque chose là à travailler, c'est-à-dire le retour sur soi, le retour d'où on est, le retour aux origines, et que ça pouvait aussi protéger.
Une forme de retour aux sources, donc. Mais c'est vrai que, par nature, on dit souvent que les Corses sont plutôt ténébreux. Est-ce que vous diriez, Antoine Albertini, que vous vous êtes encore plus renfermé sur vous-même pendant ce moment, et c'est un vous collectif ?
Non, mais vous savez, ça aussi, c'est un petit peu un cliché. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les Corses sont renfermés sur eux-mêmes, ce qui est le cas un peu de tous les Iliens, de tous les insulaires. C'est vrai qu'on le dit, oui, beaucoup d'habitants d'îles. Mais en réalité, on a une histoire d'émigration, je dis bien émigration, qui est très peu connue, qui a été pourtant étudiée ici avec beaucoup de passion, puisque le destin des Corses a été très longtemps indéfectiblement lié à celui des colonies françaises. Une diaspora corse en Indochine, en Algérie, au Maroc, énorme, très importante. Et surtout, une émigration de beaucoup plus longue date et qui est encore moins connue, qui est l'émigration d'une partie des Corses, c'est-à-dire des habitants du Cap Corse, vers Santo Domingo, Puerto Rico, une partie des Caraïbes. Oui, ils se sont fixés pour certains, en Amérique du Sud beaucoup aussi. Ils sont partis pour des raisons économiques, évidemment, au début et au milieu du 19e siècle. Et on compte parmi les deux anciens présidents du Venezuela, deux Corses, par exemple. Donc on a toujours eu ce double aspect, ce paradoxe en nous, c'est-à-dire un peuple de montagnards essentiellement, qui a fini par se fixer sur les côtes, mais qui a jamais cessé de regarder l'horizon. Donc on a vraiment, finalement, ce double tropisme chez nous, très attaché à la terre, mais aussi pour des besoins, à la fois pour des raisons économiques, à la fois par besoin de respirer, cette volonté de s'expatrier est souvent très très loin. Et c'est lié à un autre paradoxe. Partout en Corse, on vous le dira, règne la jalousie. C'est une petite île, les gens se regardent beaucoup, s'épient beaucoup, s'observent beaucoup, et ils retrouvent des réflexes de solidarité sitôt qu'ils sont projetés à l'extérieur. Donc ça explique beaucoup aussi leur réussite à l'extérieur. Le meilleur exemple, quoi qu'on pense de son, de sa trajectoire et de son épopée, c'est Napoléon.
Et pour en finir juste avec cette question du protectionnisme extrême qu'on a pu voir en effet se manifester dans d'autres îles, est-ce qu'en Corse, il y a eu un rejet de ceux qui n'étaient pas natifs et qui sont venus se réfugier ?
Pas à ma connaissance, et pour tout vous dire, il y en aurait peut-être eu s'il y avait eu une arrivée massive, par exemple, de propriétaires de résidences secondaires, mais en fait, les choses ont eu lieu tellement vite, et il est tellement peu facile, quoi qu'on en pense, de gagner la Corse au quotidien, c'est quand même, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus 15 rotations par jour avec le continent, qu'en réalité, il y a eu très peu d'arrivées. Mais globalement, je ne suis pas convaincu que ça serait mal passé, en fait.
Alors, ces paradoxes que vous venez de souligner, Antoine Albertini, ce tableau pas forcément idyllique non plus de la Corse, vous le brossez également dans votre roman, avec un point de vue même assez critique. Roman, donc, je le rappelle, qui s'intitule « Banditi » et qui met en scène une île gangrenée par les magouilles, les meurtres, autre coup de sang intempestif qui nuisent à la sérénité ambiante. Et pour preuve, ce passage, page 44, que je vais citer, où s'exprime votre narrateur à l'occasion de ses retrouvailles avec un ami. Et voici ce qu'il dit, ce que vous écrivez. Nous avions passé une longue nuit au comptoir d'un bar du marché à discuter du passé, du nationalisme et de la police, de l'histoire de notre île, voué à ne connaître jamais le moindre repos, des erreurs des gouvernements et de notre faculté à nous sentir agressés au moindre mot, de nos espoirs qui n'en étaient pas vraiment, car il fallait croire que nous aimions la violence, que le soleil nous chauffait trop la tête. On est bien loin des cartes postales avec ces phrases. Pourquoi, Antoine Albertini, choisissez-vous de montrer l'île sous ses aspects les plus sombres ?
D'abord, pour un peu battre en brèche une espèce de d'approche qui a dominé longtemps depuis que la littérature s'est emparée de la Corse, c'est-à-dire depuis environ le premier tiers du 19e siècle, c'est-à-dire une île réduite aux dimensions d'un paysage complètement réifié, avec les montagnes majestueuses, ses plages de sable blanc ou ses côtes découpées. Tout ça est très folklorique, tout ça est très mérinéen, mais on oublie très souvent de dire que cette île est peuplée par des gens, en fait, qui sont le plus souvent aussi réduits à des archétypes. Et tout simplement parce que moi, je m'inscris en faux contre cette espèce de, je dirais, de d'auto-lieu commun que les Corses entretiennent sur eux-mêmes, c'est-à-dire que grosso modo, la violence de tout temps n'a été qu'une conséquence du sous-développement économique de l'île, de sa faiblesse démographique. En fait, lorsque vous mettez tous ces éléments ensemble, vous voyez que la violence en Corse n'a jamais cessé. Alors, elle n'atteint pas les niveaux qui ont pu prévaloir par le passé, elle n'atteint même pas les niveaux qui avaient cours il y a 10 ou 20 ans, si vous voulez. Mais en revanche, je pense que c'est une dimension culturelle, au sens d'un agrégat d'ensemble de données économiques, sociales, géographiques, même topographiques et historiques, mais que la violence ressort bien d'une partie de notre culture, celle que nous n'arrivons pas à abandonner. Pour les besoins d'un prochain bouquin qui se déroule au XIXe siècle, je me documente, les niveaux de violence au XIXe siècle en Corse étaient inédits en Europe, y compris dans des zones de guerre. On comptait jusqu'à 5-6 assassinats par jour sur une année pleine. Pour une île qui faisait 250 000 habitants, c'est considérable. Donc moi, ce que je veux mettre en lumière, c'est cette part-là, c'est-à-dire enlever, un peu tirer à travers la carte postale et regarder à travers les trous, à travers les trous des balles. Et ce qu'on y voit n'est jamais très engageant, ou rarement en tout cas.
Oui, on a bien compris, Antoine Albertini, que vous vouliez battre en brèche tous ces clichés. Alors après, vous n'y allez pas de main morte. On peut dire que des fois même, il y a une forme de provocation. Dans Malamorte, par exemple, déjà vous parliez de l'île en plein hiver, au moment où justement l'île est la moins belle. On sentait que vous aviez vraiment envie de presque, non pas la défigurer, mais en tout cas de mettre en avant quelque chose dont on ne parle jamais. Alors il faut dire aussi que cette île, on la découvre par les yeux très désabusés de votre personnage, qui est un ancien flic devenu détective privé, qui est très lourdement alcoolique. Qu'est-ce que représente cet homme pour vous ?
Ben, je pense qu'il représente la somme de tous les espoirs déçus et de tous les renoncements que peut ressentir un homme d'une, je ne lui donne pas vraiment d'âge, d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, on va dire une fourchette large, qui a vécu en Corse, qui a été policier, qui a vu son île sombrer progressivement, y compris dans les périodes où, comme celle-ci, ben c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un peu moins d'assassinats, que les choses se redressent, etc. Mais tout ça n'est qu'un trompe-l'œil en réalité. Moi, ce que je perçois de mon île, c'est que c'est une île qui s'enfonce inexorablement dans un océan de renoncement et de médiocrité. Et c'est quelque chose contre lequel, collectivement, on semble incapable de réagir. C'est-à-dire qu'on est totalement anesthésié. Si vous vous ajoutez à cette perspective et à cette dimension l'arrivée massive pour la première fois de son histoire dans l'île, d'argent, d'investissement, ben vous avez tous les ingrédients d'un cocktail qui peut se révéler potentiellement, à mon avis, fatal. Alors, on me reproche beaucoup ici cette vue pessimiste, mais elle est sans doute aussi conditionnée par le fait que je suis correspondant du Monde depuis 20 ans en Corse et que l'actualité corse fait que j'ai souvent couvert des affaires criminelles et que ça, sans doute que ça impacte ou que ça influe sur mon regard. Mais il n'en demeure pas moins que moi, c'est ce que je perçois. Et donc, évidemment, je ne vais pas refaire la vieille rengaine du Madame Bovary, c'est moi, mais je ne peux pas faire autrement que me projeter à travers ce personnage. Donc, ce qu'il pense, c'est aussi en partie de manière paroxystique, parce que c'est le canon du genre, ce que je pense de la Corse.
Puisque vous parlez d'identification, il se trouve que votre personnage croise à plusieurs reprises un journaliste corse qui l'aide dans son enquête. Il va lui ouvrir quelques archives et partager des informations. Et de fait, les deux métiers ont de nombreuses similitudes. Vous auriez aimé être policier, vous, au lieu d'être journaliste, Antoine Albertini ?
Alors non, moi je vais beaucoup vous étonner, mais en fait, mon rêve de gosse, moi, c'était de m'engager dans la Légion étrangère, figurez-vous. C'était pas du tout d'être policier. Moi, mon rêve, c'était d'être légionnaire parce que j'étais complètement happé par la mystique de ce corps d'élite qui comptait à la fois des guerriers et des poètes, des grands écrivains comme Blaise Cendrars, des peintres comme Nicolas de Staël, comme Hans Hartung, etc. Donc j'étais absolument fasciné par ça. Policier, je pense pas que j'aurais été un très très bon flic parce que le sens de la hiérarchie et moi, ça fait deux. Et n'étant pas très enclin à me soumettre aux directives hiérarchiques de manière générale, je pense que j'aurais eu un peu de mal, pour ne rien vous cacher.
Et du coup, quels sont vos liens avec la police corse ?
Des contacts très distendus, pour ne pas dire inexistants aujourd'hui, parce que le renouvellement générationnel fait que on vieillit un peu en même temps que les flics qui eux-mêmes partent à la retraite. J'ai rarement eu, pour être très très franche avec vous, des contacts très très étroits avec la police, notamment en raison du fait que les policiers qui sont en poste ici sont très très souvent continentaux, en tout cas pour les services d'enquête, je parle de police judiciaire, et qu'il faut bien considérer, alors c'est peut-être un peu provoque ce que je dis, mais s'ils arrivent à entretenir d'excellents rapports avec des journalistes continentaux qui travaillent sur la Corse, on est toujours soupçonné, nous, journalistes corses, de porosité, de manque de fiabilité, voire carrément de j'allais pas dire de menée subversive, mais grosso modo, il m'est arrivé souvent de discuter avec des flics de police judiciaire et qui manifestaient une sorte de méfiance à mon endroit parce que un Corse s'est réduit à ce qu'on croit savoir du Corse. C'est-à-dire que, grosso modo, le journaliste corse ne peut pas être simplement journaliste, il est corse avant tout, et donc s'il vient demander une info, s'il vient essayer de se renseigner sur quelque chose, bah, c'est forcément suspect, c'est pour renseigner quelqu'un, c'est pour faire de l'entrisme.
Donc, de fait, vous vous êtes, entre guillemets, un peu vengé en inventant ce personnage qui boit plus que de raison. D'ailleurs, je me demande, avec tous les litres de bière et d'alcool qu'il ingurgite jour et nuit, parce qu'on en est là, comment il réussit à tenir encore debout votre détective privé.
Vous seriez étonné, malheureusement, j'ai des exemples flagrants de gens qui boivent encore plus que lui, qui tiennent non seulement debout, mais qui en plus sont encore plus lucides que lui. Donc parfois, je me demande si ça aide pas. J'en doute fondamentalement, mais je me pose aussi cette question. Non, pour répondre à votre question, je ne suis pas du tout vengé des policiers. Moi, chacun joue sa partie, ensuite, à chacun d'en assumer les conséquences. Je ne m'énerve jamais contre quelqu'un qui refuse de me parler. C'est son rôle le plus absolu. En revanche, il faut qu'il assume le fait de ne pas parler.
En tout cas, celui-ci a le mérite d'être obstiné et de continuer son enquête, quoi qu'il en soit.
Oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le boulot, en réalité. Et c'est le fait qu'il ne soit plus policier qui lui permet de le faire, finalement. Parce qu'ils sont eux aussi soumis à d'intenses pressions de leur hiérarchie. On le voit à des épisodes paroxystiques plus ou moins réguliers qui reviennent dans l'actualité de Lille. Lui, c'est abstrait de ça, puisque à la fin de Madame Morte, il quitte la police et il devient une espèce de détective privé un peu à la ramasse. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Il n'a pas beaucoup de boulot, ce ne sont pas souvent des affaires passionnantes. Mais quand on touche à quelque chose qui le frappe de plein fouet, il est obligé d'aller jusqu'au bout de son enquête. Et c'est vrai que j'ai rien inventé, c'est un peu les canons du genre aussi, c'est un peu un hommage à toute une génération de détectives privés, de Achiel Hamet, de Raymond Chandler. C'est aussi un hommage au dur à cuire, ce qu'on appelait le hard boy, le dur à cuire, mais transposé dans une île de Méditerranée. Je trouvais que c'était un mélange qui pouvait être assez intéressant.
On y donne à ça, cosa vuol dire amare uomo? Ogni donna sa come tenerlo a sé vicino. Io la parte mia, una sirena nella notte canto per te, dritto al tuo cuore. E poi ti stringo, poi ti stringo forte, ti retisco, ti stordisco e cadi giù senza più fiato, soffocato. Testa la sua trama, io per conto mio.
Entrons maintenant avec vous, Antoine Albertini, un peu plus dans ce deuxième roman Banditi, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, donc, et où l'on retrouve votre personnage sans nom, d'ailleurs, qu'on a découvert policier dans Malamorté et qui, là, ici, est devenu détective privé et qui, pour rendre service à un ami, part sur les traces d'un oncle qui aurait disparu dans la montagne. Et le voilà donc embarqué dans une histoire trouble à la croisée du terrorisme italien, des guerres nationalistes corses et de la corruption financière. Est-ce que vous vous êtes inspiré de faits réels pour nourrir votre intrigue, Antoine Albertini?
Alors oui, moi je suis partisan de cette catégorie d'écrivains qui affirme qu'on ne peut écrire que sur des sujets qu'on connaît. Ce sont des sujets que je connais, en tout cas que je pense connaître. Alors en ce qui concerne la disparition de l'oncle en pleine montagne, oui, je m'inspire d'un fait divers qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, mais que j'avais couvert quand j'étais journaliste à la télévision ici, d'un vieux monsieur qui avait disparu d'un village qui arrive assez fréquemment et qu'on avait retrouvé décédé malheureusement. Donc c'est un peu le point de départ. Et ensuite, évidemment, sur ce canevas-là, j'ai essayé de brasser un peu plus large. Donc oui, je revisite un peu l'histoire des guerres fratricides entre nationalistes au tournant des années 90, qui a été la période, une des périodes les plus sombres de l'histoire de la Corse depuis pratiquement la Première Guerre mondiale, avec des affrontements fratricides, des familles déchirées, une quarantaine d'assassinats en 2 ans. Enfin, ça a été absolument épouvantable. Et ensuite, je réactive un peu la place de la Corse dans son ensemble géographique naturel, qui est beaucoup plus proche de l'Italie. Elle a été sous domination génoise pendant des siècles, avant ça pisane, avant ça romaine. Donc c'est un peu notre sphère culturelle. Oui, je m'appelle Albertine, il y a plus d'Albertine dans la plaine du Pau que d'Albertine dans toute la France. Donc, il y a bien des liens qui nous unissent. Et puis, les gens savent assez peu que la Corse a été en partie un sanctuaire pour des membres italiens des Brigades Rouges qui sont venus soit s'y cacher, soit s'y ressourcer entre deux vagues d'opérations, je dirais. Alors évidemment, ça n'a jamais été aussi généralisé que je ne le laisse entendre dans le roman, comme si c'était quelque chose de systématique, mais il y a quand même eu des épisodes assez notables, je pense au début des années 2000, lorsqu'on a arrêté sur une plage d'Île Rousse en train de prendre le soleil, une personne qui avait été soupçonnée de faire partie du commando qui avait kidnappé et assassiné Aldo Moro.
Oui, les Brigades Rouges, donc.
Voilà. Je m'inspire de ça parce que à chaque fois, ce sont des dimensions méconnues de l'histoire de la Corse et qui, pour moi, les rendent d'autant plus intéressantes. La Corse, comme ça, l'histoire de la Corse, elle est jalonnée d'épisodes qui sont absolument pas connus, beaucoup moins connus que d'autres épisodes qui sont complètement anodins par rapport à ça, et qui sont jamais mis en lumière, soit parce qu'on s'y intéresse pas vraiment, soit parce que ça revue des choses qui sont pas agréables et qu'on évite de touiller la fange, quoi.
Donc vous articulez plusieurs fils rouges, des fils de violence qui viennent d'origines différentes, mais qui au final se branchent tous, j'ai envie de dire, sur la même bombe qui va tout faire exploser. Et au cœur de cette violence fratricide, en effet, vous mettez en scène un groupe de femmes d'Amazones dont on pourrait croire qu'elles pourraient apaiser la situation, mais en fait elles sont tout aussi armées et violentes que les hommes. Qui va donc arrêter toute cette haine et cette vendetta permanente en Corse, selon vous, Antoine Albertini ?
Moi, j'espère que le combat ne cessera pas faute de combattants. Ça, c'est le premier point, puisque ça signerait la disparition définitive et totale de la Corse comme, je dirais, entité historique et de peuple. Donc, je pense que ça serait dramatique. Mais pour être très honnête avec vous, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui pourrait, aujourd'hui, rendre cette île un peu plus vivable de ce point de vue. J'ai tendance à penser qu'une certaine pacification des mœurs amènera tout ça, c'est-à-dire à l'avènement d'une paix sociale un peu durable. Malheureusement, l'étude de l'histoire sur le temps long montre qu'il n'en est rien, si vous voulez. La violence décline peut-être en intensité et en nombre, mais elle ne disparaît jamais tout à fait en Corse. C'est ce qui rend la situation très tendue aujourd'hui, mais surtout, la violence, elle change de nature en Corse. Elle devient sociale. C'est une île où on ne sait pas qu'il y a d'immenses fortunes. C'est une île dont on ne sait pas qu'un habitant sur cinq vit dans un foyer en dessous du seuil de pauvreté. Et ce décalage-là dans une île qui a toujours été marquée malgré tout par des réflexes de solidarité, où les classes ont toujours existé, les classes sociales, mais leurs différences étaient quand même nivelées, réduites. Tout ça est en train de voler en éclats et fait que la situation sociale aujourd'hui, moi, m'inquiète énormément, notamment en raison de ce décalage entre les gens qui n'ont rien et les gens qui commencent à s'accaparer tout. Et ça pose un vrai problème, et un vrai problème qui n'est pas seulement économique, qui est aussi mental. C'est-à-dire que ça ne correspond absolument pas à ce qu'a pu être et à ce qu'a longtemps été notre culture.
Donc la malédiction pèse encore sur l'île et à vous écouter, Antoine Albertini, il y a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais aussi noté, page 99, que vous écriviez dans cette île, tout ce qui est bon finit par disparaître et il ne reste plus que le mauvais. Donc, compte tenu de ce tableau très inquiétant que vous faites de la Corse, Antoine Albertini, qu'est-ce qui vous y retient ?
D'abord, c'est mon pays. C'est mon île, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Et comme dit un ami à moi, je vais essayer de le formuler diplomatiquement et pas de la manière dont il dit, mais ce sont peut-être des salauds, mais ce sont mes salauds. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est toujours préférable d'avoir un salaud à soi qu'un salaud complètement étranger qu'on ne connaît pas. Mais ce qui me retient aujourd'hui, je me pose la question, je pense que j'ai encore un petit peu de travail à faire. Mais le jour où mes deux fils, qui ont aujourd'hui 17 et 15 ans, partiront peut-être ou pas, je ne sais pas, sur le continent faire des études, je réfléchirai.
Parce que ça doit être douloureux quand même d'y vivre et d'écrire sur ce sujet.
Alors, d'écrire sur ce sujet, c'est ni douloureux ni dangereux. Hein. On prend ses responsabilités et on fait ce qu'on a à faire quand on estime devoir le faire. Donc moi, je ne suis pas un chevalier blanc, je ne suis pas du tout un journaliste, ni courageux, ni je ne suis pas Roberto Saviano, ou alors je suis vraiment le Roberto Saviano du pauvre. La seule chose que je partage avec lui, c'est la calvitie et la barbe. Mais c'est compliqué au quotidien quand on voit les comportements que je dénonçais à l'instant ou que j'exposais à l'instant devenir la norme. C'est ça qui est compliqué. C'est quand on voit des gens qu'on a toujours estimés, qui étaient toujours droits, ben, se vendre pour 2 hectares de terrain. C'est quand on... Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui résistent intelligemment, mais aussi des gens du monde culturel qui résistent intelligemment. Il y a quelques politiques qui résistent intelligemment et courageusement, beaucoup plus que courageusement que je ne le fais, puisqu'ils sont soumis à des pressions considérables. Et surtout, moi, ce qui me marque en Corse, c'est d'abord l'incroyable variété des gens qui y habitent, et surtout, je crois, pour avoir quand même pas mal voyagé, pour avoir vécu près d'une dizaine d'années à Paris, etc., il y a des individualités en Corse qui sont extraordinaires. De temps à autre, vous tombez sur, dans une librairie, un type qui semble descendre de sa bergerie, qui est en chaussures de marche avec un jean dégueulasse, qui a son pick-up garé sur le parking n'importe comment, et vous voyez ressortir ce mec avec 20 bouquins d'histoire, et vous vous dites, là vous imaginez, bah, il retourne chez lui lire tout ça. Vous avez aussi des comportements à titre individuel qui sont d'un grand courage, une très grande habileté. Vous avez des artisans qui font vivre cette île. Vous avez des gestes de solidarité, on l'a vu là pendant l'épisode du Covid, des gestes de solidarité qui, moi, me laissent sans voix. Donc il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui bat. Mais combien de... La résistance, entre guillemets, combien de bataillons? Vous voyez ce que je veux dire? Combien de divisions? Ben, on ne sait pas. Tant que ces gens-là, hommes, femmes, même enfants... resteront, on aura encore le droit de vivre ici. Quand ils commenceront à décliner, à disparaître les uns après les autres, quand, si un jour toute cette vague que je décris déferle et balaye tout ça, il n'y aura plus rien à faire ici.
Alors ça, c'est ce que vous dites, Antoine Albertini, mais à l'inverse, on ne le voit pas beaucoup dans vos romans qui ne sont pas les meilleures publicités pour le tourisme corse.
Oui, ça m'a été reproché de manière quasi officielle par certains élus d'ailleurs, mais c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai un élu de premier plan qui m'a envoyé un SMS avant l'apparition de Bandit qui m'a dit, il paraît que tu écris encore un bouquin sur la Corse, tu vas nous faire perdre 30 millions d'euros de devises. Ben, je lui ai dit, si ça pouvait représenter l'équivalent de mes ventes, je serais très content.
Est-ce que vous avez écrit pendant ces 2 derniers mois, Antoine Albertini, j'entends par là de la fiction?
Alors, je n'ai pas écrit de fiction, mais où est la frontière entre le réel et la fiction? En revanche, je finis de classer et de résumer la documentation que j'ai accumulée depuis 11 ans sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'épopée d'un bandit corse à la fin du 19e siècle dans la région de Sartène, et pour laquelle je me passionne depuis 11 ans. Donc là, j'achève de mettre ma documentation au propre. J'ai déjà rédigé pas mal, mais je vais surtout entamer la rédaction du plan, parce que comme je suis un maniaque, un obsédé dangereux du plan et de l'organisation du travail, je ne peux pas me mettre à travailler avant d'avoir fait un plan extrêmement circonstancié sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages en prévoyant tout ce qui peut arriver pratiquement minute par minute. Sinon, je suis pas content, j'arrive pas à dormir. Donc je me lance dans ça, là.
Donc toujours le thème des bandits.
Alors, le thème des bandits corses, mais ces fameux bandits d'honneur qui tenaient le maquis, qui ont fait les régales de Maupassant, de Balzac, qui a même voulu en devenir un quand il est venu en Corse à l'âge de 19 ans, de Mérimée, bien sûr. Mais derrière cette légende des bandits d'honneur qui prenaient le maquis pour avoir voulu venger une sœur ou une mère ou tout ce tintouin qui tient pas debout, il y avait une réalité sociale, économique, et criminelle qui était beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus intéressante à étudier et qui surtout dresse un tableau de la Corse au 19e siècle en mode western qui est absolument hallucinant. Hallucinant.
Eh bien, avant de lire ce tableau de la Corse au 19e siècle, on va lire la Corse aujourd'hui au 20e siècle avec votre nouveau roman qui, je le rappelle, s'intitule Banditi, qui est apparu aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Antoine Albertini.
Mais merci beaucoup à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Carrefour de l'Europe.